RFI 13h à Paris, 11h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit ne pas vouloir jouer avec les courtes trêves proposées par son homologue russe Vladimir Poutine et notamment ce cessez-le-feu du 8 au 10 mai. Ce n'est pas assez pour négocier selon lui. En attendant, la guerre, elle, se poursuit. L'état d'urgence a notamment été déclaré dans un port russe ce samedi après une attaque de drones ukrainiens. Cette annonce du Pakistan qui attise un peu plus la crainte d'un embrasement régional. L'armée pakistanaise indique avoir fait un essai de lancement de missiles sol-sol, alors que les tensions sont fortes avec le voisin indien. En Haïti, la coalition de gangs Vivre Ensemble et le gang de Grand Griffe, inscrit hier par les États-Unis sur la liste des organisations terroristes étrangères. Qu'est-ce que cela va changer ? Élément de réponse avec un spécialiste à la fin de cette édition. Mais d'abord, on vient de l'apprendre, le gouvernement australien de centre-gauche remporte les élections législatives qui ont eu lieu ce samedi en Australie. Donc voilà ce qu'indiquent les projections des médias locaux. Anthony Albanese devrait être reconduit à la tête du gouvernement travailliste. Son opposant Peter Dutton, chef des conservateurs, n'a pas fait une très bonne campagne. Il a très largement emprunté à la rhétorique et aux idées trumpiennes, ce qui a refroidit les électeurs. Impossible pour le moment de dire si le gouvernement travailliste aura la majorité absolue au Parlement. On y revient dans le prochain journal, dans une heure sur RFI, avec notre correspondant à Sydney, Grégory Pless. La guerre se poursuit entre l'Ukraine et la Russie. Guerre des mots. Volodymyr Zelensky indique qu'aujourd'hui qu'il n'est pas possible de s'entendre sur quelque chose en 3, 5 ou 7 jours. Ce n'est pas sérieux, dit le président ukrainien en référence au cessez-le-feu du 8 au 10 mai proposé par Vladimir Poutine. Sur le terrain, les attaques se poursuivent. Une cinquantaine de personnes ont été blessées dans des frappes russes hier soir sur Kharkiv. L'état d'urgence a été décrété ce samedi dans la ville russe de Novorossiysk, dans le sud de la Russie, après une attaque de drones ukrainiens. Jean-Didier Revoin, on vous retrouve en direct de Moscou. L'attaque a touché des infrastructures portuaires et des immeubles d'habitation dans lesquels les autorités locales ont déploré 3 blessés.
Ah oui, hein, les images diffusées sur les réseaux sociaux et la télévision russe montrent 3 immeubles d'habitation dont les fenêtres ont volé en éclats. On peut également y voir des débris éparpillés au sol. Les autorités locales ont décrété l'état d'urgence et annoncé qu'une femme et 2 enfants avaient été hospitalisés. Cette attaque de drones ukrainiens qui a visé le principal port commercial russe de la mer Noire a également endommagé 3 unités de stockage dans un terminal céréalier. Ce raid démontre que Kiev est toujours en mesure de porter des attaques en territoire russe à quelques jours des célébrations de la victoire contre l'Allemagne nazie qui auront lieu dans la plupart des villes de Russie et en particulier à Moscou où les mesures de sécurité sont drastiques. Une 20aine de chefs d'État et de gouvernement étrangers y sont attendus pour l'occasion et les déclarations de Volodymyr Zelensky ne sont pas de nature à faire baisser la tension. Le président ukrainien a en effet déclaré qu'il n'était pas en mesure de garantir leur sécurité en dépit de la trêve de 3 jours proposée par Moscou. Le leader ukrainien estime en effet qu'il est trop courte pour mener des pourparlers sérieux et que par conséquent, il n'aidera pas Vladimir Poutine à trôner calmement au milieu de dirigeants étrangers.
Jean-Didier Revoin en direct de Moscou. L'armée israélienne dit s'être déployée dans le sud de la Syrie et être prête à intervenir pour protéger les villages druzes après les affrontements entre combattants de la minorité défendue donc par l'État hébreu et des groupes armés proches du nouveau pouvoir de Damas. Israël qui a par ailleurs mené plus de 20 frappes en Syrie la nuit dernière, ciblant des sites militaires à travers le pays. L'agence officielle syrienne fait état d'1 mort civil. À Gaza, 11 morts dans une frappe israélienne à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. C'est ce qu'indique la défense civile. Parmi les victimes figurent 3 enfants, 2 âgés de 1 an et un bébé d'1 mois seulement. L'armée pakistanaise a annoncé ce samedi avoir effectué avec succès un lancement de missiles sol-sol, annonce qui intervient en pleine tension avec l'Inde alors que le Pakistan s'attend à une frappe imminente de son voisin. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées après l'attentat terroriste du 22 avril dernier dans le Cachemire indien qui a coûté la vie à 26 civils. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour Charlotte.
Un embrasement entre puissances nucléaires est donc plus que jamais redouté.
Et oui, le Pakistan a décidé de montrer les muscles en procédant ce samedi à un lancement de missiles, vous l'avez dit, un missile sol-sol d'une portée de 450 km. Le test du système d'armement Abdali, qualifié de réussi, visait selon l'armée à évaluer les capacités techniques du missile, son système de navigation avancée et son état de préparation opérationnelle. Le chef de l'armée, Syed Asim Munir, qui a présidé hier une réunion de haut gradés, a souligné l'importance cruciale d'une vigilance accrue et d'une préparation active sur tous les fronts. Autrement dit, le Pakistan se tient prêt à répondre à toute menace ou agression. Dès mercredi, Islamabad avait annoncé anticiper une attaque imminente de l'Inde en se basant sur ses services de renseignement. Et malgré les appels internationaux à la désescalade, eh bien, les deux parties campent sur leur position. L'Inde tient le Pakistan pour responsable de l'attentat au Cachemire, des accusations que le Pakistan juge infondées.
Yelena Tomic. En Haïti, la coalition de gangs Vivre Ensemble qui fait régner la terreur sur Port-au-Prince, c'est le gang de Grand Griffe qui étend sa toile dans le département de l'Artibonite, ont été inscrits hier par les États-Unis sur la liste des organisations terroristes étrangères. L'annonce intervient au moment où les groupes criminels ont encore intensifié leurs efforts pour étendre leur contrôle territorial en Haïti. L'ère de l'impunité est révolue, a indiqué le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans un communiqué. Cette disposition permet de s'attaquer à tous ceux qui, même en dehors d'Haïti, soutiennent, financent et arment ces organisations criminelles. Ce n'est pas pour autant la martingale, selon le chercheur de l'International Crisis Group, Diego Darin, spécialiste d'Haïti.
Cette désignation pourrait être un moyen d'augmenter les risques juridiques pour ceux qui les soutiennent d'une manière ou d'une autre, ou de cibler plus facilement les réseaux impliqués dans le trafic d'armes qui sont à destination des gangs en Haïti. Mais en réalité, les effets négatifs de cette mesure risquent de dépasser largement ses avantages. Ce label de terroriste est un outil très politisé et une mesure presque irréversible qui a peu d'impact sur des acteurs qui sont déjà en dehors de tout cadre légal. Si l'objectif est à terme de réintégrer ces groupes ou d'offrir une porte de sortie à certains de leurs membres, notamment aux mineurs qui sont de plus en plus enrôlés dans les gangs, cette désignation complique tout. Une autre raison qui était avancée par certains responsables du gouvernement états-unien était de dire que cette mesure permettrait plus facilement de déporter des chefs de gangs haïtiens au Salvador, au centre de réclusion connu comme le CECOT. Mais en ce moment, ce sont les gangs qui ont le dessus sur les forces de sécurité. Donc la question reste, comment est-ce que on va capturer ces chefs avant de les transférer, bien sûr, dans des prisons d'autres pays.
Le chercheur Diego Darin, des propos recueillis par Michael Ponge. Ce samedi marque la journée mondiale de la liberté de la presse. La Prensa, le plus ancien journal du Nicaragua, a été récompensé par l'UNESCO. Sa rédaction est désormais contrainte à l'exil. Le journal a dénoncé la mainmise du président Ortega sur le pays depuis 18 ans, 2021, face aux menaces de répression du gouvernement. Il a été contraint d'arrêter son édition papier. Le responsable de ce journal, Juan Lorenzo Holman, a été condamné en 2021 à 9 ans de prison avant d'être relâché, expulsé vers les États-Unis 2 ans plus tard. Pour lui, ce prix, c'est donc un grand honneur et une reconnaissance dans des temps troublés pour le journalisme au Nicaragua. On l'écoute.
Au Nicaragua, le journalisme libre et indépendant n'existe pas du tout. Donc la voix de ceux qui vivent au Nicaragua, c'est nous qui sommes en exil. Continuer à faire du journalisme au Nicaragua, c'est comme un apostolat. Je nous appelle les apôtres de la liberté de la presse, car le gouvernement persécute les journalistes, les criminalise, au point que les gens ont dû quitter le pays pour conserver leur intégrité. Mais si la flamme de la liberté de la presse s'éteint, nous nous retrouverons tous dans l'obscurité. Et ainsi, le récit imposé par le gouvernement, par la dictature, prendrait encore plus de place et deviendrait le seul à être entendu.
Le journaliste responsable de la Prensa, Juan Lorenzo Holman, récompensé donc pour son travail effectué au Nicaragua, ce pays d'Amérique centrale dirigé par le président Ortega, se place à la 172e place sur 180 au classement de la liberté de la presse.